cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 12 octobre 1995.
Petite question. La phosis est-elle découverte d'abord comme cause efficiente ou comme cause matérielle? Je suis parti du mouvement et j'interroge. Est-ce que j'interroge d'où vient ce mouvement? Ou j'interroge qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Existe-t-il? Vous voyez, toujours important de voir que c'est l'interrogation qui dirige mon analyse. L'analyse est propre à une intelligence qui veut connaître la vérité. C'est parce que je veux connaître la vérité que j'analyse, aussi bien le savant que le philosophe. Le savant interroge, il émet des hypothèses. Et ce sont des hypothèses. Et quand il est très intuitif, ces hypothèses sont bonnes. Quand il n'est pas intuitif du tout, ces hypothèses sont mauvaises et n'aboutissent à rien, une impasse. Je connaissais comme ça un étudiant. Il faisait une thèse en biologie à Fribourg. Et c'était depuis 15 ans qu'il cherchait. Parce que le professeur lui avait donné une recherche qui, visiblement, conduisait à une impasse. Là, dans une impasse, on peut tourner indéfiniment. Il faut se mettre sur un châle de bois pour tourner indéfiniment. Et on n'en sort pas. Et c'est très vrai que des fausses interrogations n'ont pas de réponse. Maman, qu'est-ce que c'est que le TGV? Parce que la mère répond, qu'est-ce que c'est que ça, maman? TGV, vous comprenez qu'un gosse, TGV, ça lui dit beaucoup de choses. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que TGV? La mère n'a plus qu'à expliquer TGV. Et ça explique tout. Alors, l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? À partir du jugement d'existence, qu'est-ce que c'est que le mouvement? En quoi se fait le mouvement? Vous voyez, tout de suite, c'est la cause matérielle. En quoi ce mouvement? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Et dans le mouvement, la cause matérielle apparaît en premier lieu. Évidemment, la cause matérielle et la cause formelle, d'une certaine manière, se tiennent, c'est sûr. Mais le mouvement physique est plus proche de la matière que de la forme. Parce que c'est le mouvement radical, foncier. Et pourquoi y a-t-il mouvement? Il y a mouvement parce qu'il y a, c'est devenir de l'être, le mouvement. Il y a un passage d'une détermination à l'autre. Et c'est ce passage de la détermination à l'autre qui montre la cause matérielle, cette capacité de changer sous l'action d'une cause efficiente. Mais la cause efficiente est beaucoup plus difficile à déterminer quand il s'agit du monde physique. Vous voyez, c'est intéressant à voir que lorsqu'on interroge le vivant, c'est la cause efficiente qui apparaît en premier lieu. Très curieux. Et je crois que ça, c'est clair, ça. Quand il s'agit de l'œuvre artistique et de l'activité artistique, c'est pas la cause matérielle qui est première, c'est la cause formelle. C'est vrai, ça. C'est la détermination que j'ai. Je suis ordonné. L'artiste domine la matière. C'est presque pour ça s'il fait de l'art. l'absolu sans recherche, la cause formelle, devient une cause séparée. Et la matière, une condition sine qua non. J'ai besoin d'une matière, mais peu importe. Ça n'a aucune importance. Je fais une statue. Elle est en bois, elle est en... ça n'a pas d'importance. C'est la statue qui compte. C'est donc la forme. Tandis qu'au contraire, l'expérience du monde physique, c'est pas la forme qui dépasse. C'est au contraire le mouvement. Ce mouvement qui fait que on passe de l'eau en chauffant à l'air. On passe de l'eau à la matière. Et ainsi de suite. Tandis que l'expérience que j'ai du vivant, ah, c'est autre chose. Il se meut. La cause efficiente apparaît comme la singularité particulière du vivant. Il se meut. Il n'est pas uniquement mu. Faites l'expérience de ça quand vous grimpez sur un escalier, puis vous faites un faux pas, vous dégringolez. Vous passez du vivant à la masse inerte qui dégringole. Il ne faut pas faire cette expérience ici, tant que possible. Il vaut mieux pas. Vous me racontez, il y a quelques jours, l'expérience d'une parachutiste. C'était du côté de Pau. Il sera une parachutiste dont elle dégringolait et ça ne s'ouvrait pas. Et ça s'est ouvert tout d'un coup à la dernière minute pour que de fait la chute soit quand même suffisamment amortie pour qu'elle ne meure pas. Et elle était toute heureuse, paraît-il, en disant « Je me voyais mourir ». Et je n'ai pas eu peur. Je ne sais pas si elle se voyait vraiment mourir, mais elle voyait la chute. C'est mauvais ré. Daniel, vraiment, ce n'est pas le c'est mauvais ré. On est un poids, on dégringole. La chute libre. Toute l'expérience du raisin. Toute l'expérience du bord. Du non-vivant. Mais c'est toutes ces expériences-là qu'on doit saisir à l'état brut qui pose le problème. Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que la nature matière? Ce qui est capable de changer, ce qui est mu, ce qui est mu. C'est ce qui est mu. Alors, ce qui est mu, c'est la matière. C'est pas la forme qui est mue. L'expérience brutale de ce qui est mu, c'est la matière. Parce que c'est la matière qui est mue radicalement. Ce qui est capable de changer de lieu est mu. Ce qui est capable de changer de couleur est mu. Ce qui est capable de changer de forme, et ainsi de suite. C'est donc la nature matière que je découvre. En premier lieu. Et je la découvre comme, justement, ce qui explique la cause, le principe, explique l'expérience. C'est qu'il y a dans une réalité physique qui est mue, une capacité d'être mue. Une capacité radicale d'être mu. Une capacité radicale de changer de lieu. De changer de volume. De changer d'un état à un autre état. D'une détermination à une autre détermination. Cette capacité radicale. C'est bien cette découverte. Et vous voyez comment l'induction joue. On fait l'expérience d'une réalité qui est mue en fais une chute, c'est à cause de ma nature que je fais une chute. C'est que je fais partie de ce monde et que je subis quelque chose qui n'est pas moi. Subir une chute, on subit une chute, on pâtit. Et c'est à cause de ça, parce que je fais partie de ce monde. Si je ne faisais pas partie de ce monde, non, je ne pâtirais pas de cette manière-là. En tant que vivant, je domine. Et il y a toujours les deux passages de philosophie de la nature, philosophie du vivant. Et là, l'une éclaire l'autre, ces deux expériences. Elles s'éclairent mutuellement. Et l'expérience de l'activité artistique, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle est fondamentale, elle est première. L'expérience de la philosophie de la nature et de l'activité artistique, en présence du primat de la forme. C'est pour ça que toujours, tout néoplatonisme qui met le primat de la forme en soi, c'est l'expérience de l'activité artistique qui devient l'expérience humaine la plus typique. C'est l'expérience la plus consciente. C'est vrai. C'est l'expérience la plus consciente que vous avez. La dernière conscience qu'on a, c'est celle-là. Tandis que l'expérience de celui qui pâtit, c'est l'expérience fondamentale et la moins consciente. La preuve, c'est quand vous descendez précipitamment d'une montagne, vous perdez conscience. Et ça continue de rouler, dégringoler. Vous êtes comme une pièce de l'univers détachée du tout et qui dégringole. Et ça ne change rien à votre mouvement naturel, que vous ayez conscience ou pas conscience. Quand vous avez conscience, vous essayez de vous rattraper. Et le moment où vous n'avez plus conscience, vous êtes merveilleusement une pierre qui dégringole. Un petit caillou qui dégringole. Comme ça que les anges vous regardent. Ça leur fait pas plaisir. Il ne faut pas faire ça pour leur faire plaisir. Parce que vous perdez votre individualité. Et c'est comme ça qu'ils sont très curieux. On perd son individualité. On perd ce qu'on est. On devient une partie d'un tout. C'est ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que la perte de conscience à ce moment-là fait que le mouvement continue dans toute sa pureté. Alors, vous voyez bien l'interrogation. Parce que, toujours, dans toute induction, l'interrogation est l'âme de l'induction. C'est-à-dire, c'est l'interrogation qui me fait comprendre le caractère propre de l'induction. J'ai une série d'expériences de ce qui est mu. Diverses. C'est toujours ce qui est mu. C'est toujours une réalité qui est mu. Je me pose la question, en quoi ce mouvement se réalise? Je ne dis pas comment il se réalise. Vous voyez, si je posais la question du comment il se réalise, ce serait la cause efficiente. Tandis que là, je me pose la question, en quoi ce mouvement se réalise? Je peux me poser aussi la question pourquoi elle se réalise, mais en quoi elle se réalise. C'est la première question. Et je crois qu'il se réalise en moi, en ce qui en moi est le plus indéterminé. Parce que en tant qu'il se réalise, je change. Je suis dans le devenir. Je passe d'une forme à l'autre, d'une situation à une autre situation, et ainsi de suite. Donc, je suis à ce moment-là celui qui est mu. Et donc, pour que ce mouvement, si je pose la question en quoi ce mouvement, je dis, il y a en moi une source radicale de potentialité. J'ai une possibilité radicale de changer de lieu, de changer de forme, d'être mu. Et cette potentialité radicale, je dis, c'est la matière. de la matière, parce que celle-là, elle demeure. Et la matière radicale, on dira la matière première, donc la matière ultime, c'est cette potentialité à avoir diverses formes, à prendre diverses formes, diverses figures, diverses déterminations. C'est cela qu'est la nature matière. Alors quand je dis nature matière, je maintiens une certaine détermination. Et quand je dis matière tout court, j'abandonne cette détermination. Alors il y a un passage là qui est important à saisir. Parce que la nature matière est différente pour le corps de l'homme, pour l'homme. Sa nature matière, c'est son corps. C'est une différence distincte de ce que représente la pierre, qui a une autre nature, mais qui est encore nature matière. Et toute la diversité qu'il peut y avoir des réalités, ça vient de leur nature. Elles sont toutes quelque chose de commun, c'est qu'elles peuvent passer d'une détermination à l'autre. Et quand je pousse l'induction jusqu'au bout, c'est très curieux, cette induction de la cause matérielle se fait progressivement, elle ne se fait pas d'un seul coup. Mais quand je regarde comment il peut y avoir dans un être une potentialité radicale à passer de la destruction de sa nature à une autre nature. L'eau qui s'évapore. L'eau qui disparaît et qu'il n'y a plus que la matière. Radicalement. Le feu qui brûle et qui transforme toute matière en feu. Pas toute matière, mais beaucoup de matière en feu. Il y a donc le passage d'un élément à l'autre. Et là, je dis, il faut donc aller jusqu'à une matière radicale qu'on appelle la matière première, la materia prima. Ce qu'Aristote ajoute, Aristote le fait par rapport au vivant. Il y a la mort et la vie. Et c'est le vivant. Je crois qu'on peut le faire par rapport aux éléments et c'est plus important de le faire par rapport aux éléments, parce qu'on reste dans le domaine physique de la nature, sans passer par le vivant. C'est sûr que le vivant implique une génération, un être nouveau, qui, lui, est totalement différent du premier. Il y a un lien, cependant. Il y a un lien entre, dans les vivants, n'importe quel vivant, entre ceux qui sont à la source de cette génération et celui qui est engendré. Il y a un lien, il y a une diversité radicale. Il faut donc qu'il y ait ce lien qui est la matière première. Mais vous l'avez déjà dans le feu qui transforme le bois, qui le brûle, qui fait qu'il n'y a plus de bois. Qui fait que tout est changé par le feu. Et donc, il y a un passage radical au niveau physique. Quand il y a un changement qui se fait sous l'action du feu, ou qui se fait par l'action d'un vivant, et ce changement radical implique une matière première. C'est-à-dire une matière qui n'est plus une nature et qui n'implique aucune indétermination, aucune détermination. et qui est radicalement indéterminé. C'est pour ça qu'on dira que la matière première, c'est une potentialité pure. Alors, prenez bien une potentialité pure. C'est-à-dire qu'on passe de tel être à tel autre être, sans voir la continuité, sans voir le sujet de continuité. Et pourtant, il y a une continuité. Il y a un passage de l'un à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on dira une matière, la matière première, je n'expérimente pas. Je la pose pour expliquer la continuité d'un changement à un autre changement. Parce qu'il y a une continuité réelle. Et cette continuité réelle échappe à mon toucher, échappe à ma vision. Je la pose. Et la cause matérielle doit aller jusque-là, dans l'ordre physique. C'est ça la cause matérielle. Cette nature matière, cette cause radicale matérielle, est uniquement une capacité de changer. Elle n'est pas non-être. C'est là la différence avec Platon et avec les néoplatoniciens. J'insiste toujours pour vous montrer les différences. Pour les néoplatoniciens, la matière n'existe pas. Elle est du non-être, elle est une vision de l'esprit. Elle n'existe pas. Il n'y a que la forme qui existe. Et ça va quand même contraire à l'expérience. Parce que l'expérience me montre bien qu'il y a quelque chose de plus radical que la forme et qui explique le passage d'une à l'autre. Alors c'est très vrai, je peux dire que c'est une vision de l'esprit, très bien, je ne la touche pas, mais je suis obligé de la poser. Et cette continuité est réelle, elle n'est pas fantaisiste, elle n'est pas imaginative. La nature, matière, c'est facile, c'est une telle détermination, mon corps est capable de beaucoup de changements. Sous l'effet de la chaleur, sous l'effet du froid, et à un moment donné où mon corps ne sera plus un corps vivant. Le corps vivant peut aller jusqu'au bout. Tous ceux qui revenaient de captivité disaient, il n'y a que le corps humain qui peut subir de tels changements. Un animal aurait crevé. Ce qui est vrai. Ce qui est le signe de l'âme qui porte le corps. Et qui permet des transformations énormes. Moi, ça m'avait beaucoup frappé que c'était toujours tous ceux qui revenaient de captivité, qui avaient subi des camps durs, revenaient en disant ça toujours. C'est très significatif. Un animal aurait crevé. Tandis là, on peut subir, porter. C'est la cause formelle, c'est l'âme. En réalité, c'est l'âme qui porte le corps. C'est pas le corps qui porte l'âme, c'est la cause matérielle. Et c'est pour ça que quand notre âme se bonifie après une année de noviciat, si je pouvais peser avant le noviciat et après le noviciat, on est là, on mettrait ça dans toutes les réclames, tu vois. 2 ans de noviciat, voyez la différence, avant et après. Avant le noviciat, c'est le corps qui porte l'âme. Après le noviciat, c'est l'âme qui porte le corps. Parce que mon âme s'est spiritualisée, s'est nourrie spirituellement, dans une recherche de vérité. C'est la nourriture de l'âme. Dans un amour vrai. On a découvert d'autres personnes qu'on pouvait aimer. Dans une profonde unité. Alors, l'âme se nourrissant porte davantage le corps, ça c'est sûr. Et donc, d'une certaine manière, comprenons bien, d'une certaine manière, je suis plus victorieux de toutes les maladies. Mais il arrive un moment où il y a une revanche du corps. Et l'âme, si spirituelle qu'elle soit, ne peut plus porter le corps. Quand on voit une maladie mortelle, alors on voit chez le vivant, ça se voit. C'est net. Tant que l'âme peut porter le corps, elle le porte. Il arrive un moment où des dispositions telles que le corps, d'une manière anarchique, se sépare de l'âme. Et tend vers une espèce de résistance radicale qui fait que la forme, l'âme qui informe mon corps ne peut plus l'informer. C'est très très curieux ça. C'est très mystérieux. Le médecin qui soigne un malade essaie par tous les moyens de maintenir que l'âme soit victorieuse, même s'il ne connaît pas l'âme. En réalité, c'est ça qui gère. Que l'âme soit victorieuse du corps et qu'il arrive à le dominer. Et alors, ayez ces expériences dans des domaines très différents entre le point de vue de la forme et de la matière. Si on veut comprendre un peu ce que c'est au point de vue philosophique, entre l'âme et le corps, on peut très bien faire cette expérience de la forme et de la matière. Avec les maladies, avec au contraire, quand on est en plein état de santé, qu'on est vigoureux et qu'on porte son corps, et qu'on arrive à moins dormir, par exemple, ou à moins manger, on dépasse. Mais il y a une limite, il y a un moment où il y a un signal d'alarme. Attention. Donc, voyez ce que représente la cause matérielle, cette capacité de s'ouvrir à d'autres déterminations que celles qu'on a. Dans le domaine du lieu, dans le domaine des qualités, dans le domaine. Et il y a une limite, surtout avec la nature. Chaque nature a ses limites. Et montre que là, je ne peux pas aller plus loin. Mais je peux, par rapport au monde physique, comprendre que la materia prima explique des changements radicaux à l'égard de certaines déterminations physiques. L'eau qui se transforme en vapeur, le feu qui brûle toutes les choses. Il faut réfléchir là-dessus. Dès que je découvre la nature matière, je découvre la nature forme. Vous voyez, je suis dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de perfection et de l'être. C'est l'acte qui me fait connaître la forme, c'est l'acte qui me fait connaître la puissance. Et je ne connais ce qui est possible dans l'ordre de l'être qu'à partir de l'acte. Dans le devenir, il y a une connaissance de la matière antérieure à la forme. C'est ça qui est très très curieux et qui est très intéressant à saisir. Je saisis la matière en premier lieu, la nature matière, source de tout devenir, source matérielle de tout devenir, de tout changement. Et c'est bien cette nature matière que je saisis en premier lieu. Je saisis la nature forme en second lieu, comme la détermination relative, puisque la nature forme peut changer, puisque la nature matière implique cette capacité à changer, à devenir. Donc, dans le devenir, la connaissance primordiale du devenir, c'est la cause matérielle. Mais cette cause matérielle est limitée et elle implique la connaissance d'une détermination, d'une nature-forme. Cette nature-forme vient déterminer la matière. La matière ne se détermine pas par elle-même. Puisqu'elle est pure puissance. Elle se détermine par une forme. cette forme est communiquée grâce à un agent. Mais elle se détermine. Donc cette matière, forme, se détermine par telle forme, qui est en connaturalité avec cette nature matière. Il y a une complicité très curieuse entre la nature matière et la nature forme. Il y a une harmonie, c'est ça que j'appelle cette complicité. Autrement dit, telle matière ne va pas nécessairement être capable de recevoir telle forme, telle autre, n'importe quelle forme, mais elle sera capable de recevoir telle forme. Parce que quand je dis nature, ça implique une certaine détermination. Et il y a une correspondance entre la détermination radicale de la nature et la forme qu'elle a, qui lui est propre. C'est là où on précisera, au point de vue philosophique, que cette nature, matière, est prédisposée à telle forme. Et ces prédispositions à telle forme, c'est ce qu'on appelle justement les dispositions. C'est antérieur à la forme qui détermine, à la forme qui donne le caractère propre à telle nature, à telle réalité. Autrement dit, je peux distinguer dans la cause matérielle du plus et du moins. Et je détermine ce plus et ce moins, et je détermine ce qui a d'ultime en disant que la matière peut, à un moment donné, être pure matière. Mais faisons attention, elle n'existe jamais comme pure matière. La pure matière existe comme l'ultime moment de l'induction que peut faire l'intelligence dans le monde physique. La pure matière n'existe que, je ne dis pas que dans mon intelligence, elle n'existe que saisie par l'intelligence. C'est sûr. Elle n'existe pas séparément de la forme. Pour que la matière existe, il faut qu'elle soit déterminée par la forme. C'est le couple forme et matière qui existe. Alors, du côté de la cause matérielle, étant donné qu'il y a du plus et du moins, je peux donc aller très loin dans l'indétermination de la matière. Mais cette indétermination de la matière ne pourra exister que s'il y a entre la forme et la matière une harmonie qui correspond à telle nature, à telle réalité, qui a telle détermination. Et donc, cette détermination impliquera telle ou telle disposition, prédisposition à être cette réalité. Et la complexité de l'analyse de ce qui est mu provient du fait que la cause matérielle implique du plus et du moins. C'est, je crois, ça qui fait la complexité énorme de toute analyse d'une réalité mue à cause de la matière. Le savant, à la différence du philosophe, le savant n'étudiera que les déterminations de la matière. Elle ne peut pas étudier autre chose. Donc quand le savant parle de matière, parce qu'il parle de matière, la matière a une autre signification que la matière du philosophe. La philosophe philosophie ayant existé avant la science, elle a un droit d'ancienneté. La philosophie de la nature a existé avant la physique moderne et avant la chimie moderne. Donc elle a un droit d'ancienneté. Et je crois que la connaissance scientifique de la physique et de la chimie aurait dû employer d'autres termes pour ne pas faire ces confusions, ne pas faire ces équivoques. Quand le philosophe parle de matière, ça a telle signification. Quand le physicien parle de matière, ça a telle autre signification. Et si on confond, on est dans l'équivocité. Et à partir de ce moment-là, on ne sait plus ce qu'on dit. Je crois ça très important aujourd'hui de comprendre cela. Parce que c'est le premier qui nomme une chose qui a un droit sur la nomination. On fait ça pour les étoiles, les astronomes savent très bien ça. Il a un droit, il a découvert cette... Et un autre ne pourrait pas prendre le même nom pour une autre. Or, de fait, quand il s'agit de la philosophie de la nature et de la physique moderne, on a pris des noms à la philosophie de la nature. C'est ce que Gilson, Étienne Gilson, fait cette remarque très juste à l'égard de Descartes. Il a employé tous les termes scolastiques en leur donnant une signification nouvelle. Et ça s'est fait, je crois, sans mauvaise volonté. Ça s'était fait avec mauvaise volonté, ce serait un plagiat, ce serait une falsification, et donc ce serait un mensonge. Mais qui déroute l'humanité. Je crois que là, il y a un phénomène qui est très important à comprendre. C'est que dans la connaissance scientifique, philosophique, il y a un ordre qui s'est fait, un ordre progressif d'invention. C'est sûr, c'est un fait, il suffit de regarder les choses. La philosophie a commencé. Avant la philosophie, il y avait la géométrie est plus ancienne, les mathématiques sont plus anciennes que la philosophie. Donc les mathématiques, la philosophie, les sciences modernes. Et ce qui est terrible, c'est que des mots qui avaient une signification philosophique ont été employés en sciences modernes. Je ne sais pas s'il y a des mots qui étaient propres aux mathématiques qui ont été employés en philosophie. Peut-être le mot analogie.